retour pour le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et cette fois-ci, ce n'est pas Jonathan Léveillé qui est avec moi, mais bien Simon Plante, un ami à moi qui est très connu dans le domaine financier, qu'on voit excessivement souvent avec l'incroyable Gérard Filion à Radio-Canada. Simon, comment ça va aujourd'hui?
Très bien, toi Antoine. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est vraiment apprécié.
Ça va très bien. Simon, je suis excité de parler avec toi d'un domaine qui me fascine, mais qu'on a besoin d'experts comme toi pour essayer d'aider un petit peu plus notre audience à ce niveau-là. On va parler aujourd'hui du domaine financier, on l'aura compris, mais également des fluctuations qu'on peut voir dans le marché boursier, parce que force est d'admettre qu'il y en a eu. On regardait un petit peu avant le podcast, toi et moi, les fluctuations comparativement aux 12 derniers mois. Le Nasdaq, donc l'indice qui est relié à toutes les entreprises technologiques, a chuté de 33 % en 2022 pour rebondir en environ 2 mois et une semaine de 10,5 % depuis le début de l'année 2023. Le S&P 500, qui est l'indice qui représente les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis, a perdu 19,4 % en 2022 et est en croissance de 5 % depuis le début de l'année. Si on commence avec ce sujet-là un petit peu, Simon, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se dérouler avec le marché boursier? Pourquoi il y a une remontée soudaine en ce début d'année?
Je pense que la thématique que peut-être on va observer cette année, c'est que la situation devient soudainement moins dramatique. Et soit c'est là que tu as une belle reprise dans les marchés. Pour parler de ça, on peut prendre juste un petit pas de recul. C'est que l'année dernière, c'était un peu une année où la tempête était parfaite. Premièrement, durant le COVID, jusqu'au début de l'année 2022, il y a eu des comportements spéculatifs. Donc, il faut l'avouer, il y avait de l'air dans la bulle, là, si je peux utiliser l'expression. Donc, les marchés étaient très élevés. Et là, on a eu un rajustement des multiples sur les sociétés technologiques, une certaine sobriété dans les évaluations, conjuguée aux variants Omicron, conjuguée à une guerre, puis une inflation qui finalement n'était pas juste transitoire et permanente. Puis, on l'oublie, mais au début de l'année dernière, le taux directeur au Canada, pour nous, là, des banques centrale, c'était 0,25. Puis aujourd'hui, on se réveille avec un taux directeur à 4,5, ce qui fait que la baisse a été vraiment négative. Puis en décembre, il y a quelques semaines, si on sondait les investisseurs pour demander c'est quoi votre confiance envers la bourse, bien là, le pessimisme, Antoine, il était très élevé. En fait, les indicateurs de confiance des investisseurs à ce moment-là, le pessimisme était égal à ce moment-là par rapport au début du COVID, puis même jusqu'à la crise financière. Donc, on avait un investisseur au mois de décembre, il y a quelques semaines, qui était très, très, très pessimiste. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on commence à avoir des données qu'on se dit, oui, il y a des défis, mais c'est peut-être pas aussi dramatique qu'on le pense, c'est là que le marché sort toucher ses sommets qu'il avait connus en période de spéculation, mais le marché pourrait revenir puis regagner du terrain. Là.
Et juste pour être certain que notre audience soit capable de bien comprendre aujourd'hui, quand tu parles de taux directeur, pour essayer de bien situer l'audience, essentiellement, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'argent était quasiment offerte il y a quelques mois. Et là, maintenant, les taux d'intérêt font en sorte qu'emprunter, ça commence à coûter beaucoup d'argent. Comment tu pourrais expliquer ça un petit peu à notre audience? Surtout qu'il y ait des entrepreneurs ici qui se disent, « Hey, est-ce que moi, aller me chercher un prêt aujourd'hui, comment que c'est plus compliqué que ce l'était autrefois? » Comment tout ça se traduit?
Bien, c'est ça. On a beaucoup de clients qui sont des familles en affaires puis qui vivent un peu la réalité de l'audience qui nous écoute. Puis, en termes de marché boursier, il faut se rappeler que taux d'intérêt, si je le compare à quelque chose, c'est la gravité dans les marchés financiers. Quand le taux d'intérêt, le coût d'emprunt est tellement faible, ben, tu es prêt à te retourner pour faire un investissement, que ce soit en immobilier ou en la bourse, avec des attentes de performance pas si élevées parce qu'au retour, ton coût d'emprunt est tellement faible. Par contre, comme je mentionnais, on a jamais vu que ça dans l'histoire de l'investissement. Quand ton taux directeur, ton coût d'emprunt, il grimpe d'une manière si drastique, soudainement, tes projets qui te semblaient rentables, ben c'est plus la même chose parce que peu de gens dans leur test de sensibilité avaient prédit une aussi grande hausse de taux d'intérêt. Puis ça s'est reflété dans la bourse. Donc maintenant, tes attentes de performance sont plus élevées si on utilise, par exemple, un effet de levier, par exemple, pour investir en bourse. C'est pourquoi les gens sont beaucoup plus sélectifs au niveau de leurs critères d'investissement. Puis c'est pas dramatique tout ça. On se rappelle les taux d'intérêt qu'on vit actuellement, pour ceux que ça fait un peu plus longtemps qu'ils sont dans l'industrie. On revient dans les taux d'intérêt qu'on a vécu en 2004. Ce qui fait qu'on devrait s'attendre à une plus grande sobriété, ce qu'on n'a pas eu dans les derniers temps, surtout durant la période COVID ou à l'inverse. On était totalement surpris à quel point il y avait de la spéculation. Puis c'est un retour un peu du balancier vers, une normalité. Là.
Et quand tu parles de spéculation pendant la COVID, Simon, est-ce que tu pourrais attribuer ça à l'injection de capital massive qu'il y a eu par rapport au gouvernement? On donne de l'argent quasiment gratuitement aux gens qui n'ont pas de travail et on le donne aux entreprises et on n'arrête plus. Est-ce que cette injection de capital-là fait en sorte que ces mêmes personnes-là se sont mis à spéculer et c'est ce que fait fluctuer le marché.
Oui, définitivement. On peut voir la masse monétaire, exemple la somme des dépôts qu'il y a au sein des entreprises ou chez les particuliers a vraiment gonflé. Donc, quand les gens se retrouvent soudainement plus riches qu'ils étaient, dans un monde où les taux d'intérêt étaient écrasés, ben, ils sont prêts à prendre cet argent-là et à s'étirer, à prendre un petit peu plus de risques. Et c'est là que les gens ont commencé à toucher à même des catégories d'actifs dans les crypto-monnaies que peut-être 2 ans auparavant, ils n'auraient pas osé toucher, mais parce que ça monte et tu as le sentiment de manquer peut-être le bateau, ben, les gens sont prêts à prendre un peu plus de risques. Maintenant, les taux d'intérêt ont augmenté. La masse monétaire a contracté parce que là, les gens ont commencé à utiliser leur liquidité, entre autres, pour payer davantage leurs dettes. Puis on revient justement à une normalité qui est, puis le retour du pendule que je mentionne est revenu, mais très rapidement en 2022.
Bon, on peut t'entendre en ce moment, tu as un ton assez positif. Tu es capable de voir qu'il y a une reprise. Tu es capable d'expliquer tout ça de manière logique. Il y en a qui le sont un petit peu moins. J'aimerais faire allusion ici à François Trahan, qui a été à Radio-Canada avec une personne que tu connais très bien, Gérald Filion, où est-ce qu'il mentionnait voir un peu une apocalypse à l'horizon qui va se défiler devant nos yeux dans les prochaines années, une apocalypse économique, comme quoi une récession est à nos portes, les taux de chômage vont aller à la hausse, on va être dans un environnement économique excessivement complexe. Qu'est-ce que tu fais d'une annonce comme ça, d'une personne qui est quand même assez connue, c'est un économiste qui a fait ses classes. Est-ce que tu partages une opinion du genre? Est-ce que tu penses qu'on est face à une apocalypse devant nos yeux?
Mais comment j'adresse ce sujet-là spécifiment? Je ne prends pas nécessairement les arguments de François Trahan, les déballer puis les attaquer un après l'autre. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est basé sur des suppositions. Puis si toi et moi, on bâtit un argumentaire sur des suppositions, on va terminer que chacun va avoir raison à leur propre manière, puis c'est le temps qu'ils veulent déterminer. Moi, ce que je dis aux gens, c'est impossible de prédire l'avenir. Parce que si on regarde ce qui se passe aujourd'hui et on essaie de faire une projection dans 12 mois, comment les marchés, par exemple, boursiers vont réagir, on fait abstraction de tout ce qui va se passer dans les 12 prochains mois. Puis ce que je te garantis, Antoine, c'est qu'il va y avoir des surprises positives ou peut-être négatives. Mais ça va avoir un impact et on ne peut pas l'exclure. Donc, quel stratège avait prédit 6 mois d'avance l'impact boursier qui aurait été provoqué par l'arrivée du COVID? Personne, parce qu'aucun stratège avait osé planifier l'impact d'une pandémie quand ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu. Même chose l'année dernière. Quelques jours juste avant que la Russie attaque l'Ukraine, même moi le premier, je regardais ce qui se passait et je disais, bon, jamais la Russie va toucher Kiev. Puis quand ils ont attaqué le cœur de l'Ukraine, la capitale de Kiev, on se disait, puis j'étais pas le seul, ça, ils vont tomber, c'est une question de semaine. Puis finalement, qu'est-ce qu'on a appris? C'est qu'un an plus tard, le conflit est toujours présent. Donc, quand un investisseur ou un stratège a une confiance vraiment en sa capacité de prédire l'avenir, bien moi, je mets un bémol là-dessus. Puis si les 3 dernières années, juste ce petit échantillon-là ne l'a pas appris, cette leçon-là, bien, moi, personnellement, tant qu'investisseur, j'aurais pas pu prédire l'arrivée de la pandémie, encore moins dans le cœur de la chute, à quel point il allait avoir des injections de liquidités qui allaient créer un retour à grand V du marché avec de la spéculation. J'aurais pas pu prédire, comme j'ai mentionné, la guerre en Ukraine. J'aurais pas prédit que le taux directeur aurait passé de 0,25 à 4,5. Donc, personnellement, moi, ce que je dis aux gens qui nous écoutent, il y aura toujours des gens qui vont annoncer des chutes. François Trahan avait prédit une baisse des marchés en 2008, il a eu raison, mais il l'a prédit aussi en 2010, il a eu tort. Même chose en 2016, même chose en 2019. Puis peut-être qu'il va avoir raison, je ne dis pas le contraire, mais même si on fait une prédiction, souvent ce qui va causer la chute, c'est d'autres facteurs qu'on n'aura pas pris en considération parce que personne ne peut prédire l'avenir. Donc, ce que je dis aux gens, c'est comme ceux qui sont en affaires, qui nous en écoutent, l'imprévisibilité fait partie de l'équation. Ça ne changera pas autant en bourse que lorsqu'on fait une décision stratégique pour notre entreprise. On y va avec des probabilités. Puis en tant qu'entrepreneur, on va vivre des bonnes périodes parce qu'on a pris des bonnes décisions, mais aussi parce que des fois, on est chanceux. Puis des fois, on va vivre des mauvaises périodes parce qu'on a pris des mauvaises décisions. Puis des fois, on a la malchance, mais la somme de tout devrait faire qu'on crée de la richesse à long terme. Puis c'est la même chose qu'on investit en bourse parce qu'à l'essence, investir en bourse, c'est acheter des parts d'entreprise.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique concernant l'entièreté de l'année 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance pendant l'année au complet? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que G7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe G7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Clayview. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accéder accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour débuter l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.g7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. Un point que j'aimerais ajouter là-dessus, Simon, bon, tu travailles avec beaucoup d'entrepreneurs. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui se cherchent un bon conseiller en placement, je pense que, Simon, tu prends toujours des clients au moment où on
parle. Oui, définitivement. Oui, Antoine, il n'y a aucun tu mettras dans les notes de ton podcast nos coordonnées. Ça nous fera plaisir d'avoir ces conversations-là avec les gens.
Bon, parfait. Et en ce moment, donc, tu dois avoir des entrepreneurs comme clients, des gens qui sont en affaires. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Parce que quand on est dans un environnement qui est florissant, que les choses vont bien, on est tenté de pouvoir peut-être plus investir, plus prendre de risques, parce que comme tu l'as mentionné, l'argent coûte pas tellement cher. Les taux d'intérêt sont bas, donc au final, si les choses se retournent contre nous, emprunter cet argent-là, l'utiliser, ça n'a pas été très dispendieux. Là, en ce moment, on est sur des taux directeurs que tu nous mentionnais de 4,9% si ma mémoire est bonne. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur? Est-ce que c'est le temps de peut-être continuer à prendre des risques, investir, que ce soit dans le marché boursier, en immobilier, ou on devrait se garder un peu d'argent de côté pour être certain que s'il y a quelque chose qui se déroule, puis un peu, on va dire beaucoup, parce que n'importe quel chef d'entreprise qui est à ses affaires va toujours en garder quand même un peu de côté, mais quand tu as conseillé des clients en ce moment, comment va se traduire un petit peu ta narrative?
Oui, c'est ça. Au niveau de la gestion de patrimoine pour les patrimoines des gens en affaires dans la globalité, on s'occupe pas juste au niveau du placement, mais dans la stratégie globale, je pense que nos clients veulent bâtir des entreprises qui sont pérennes dans le temps. Puis quand tu as cette vision-là à long terme, tu dois travailler toujours sur deux fronts. Puis je suis convaincu que les gens nous entendent, c'est que tu as une portion qui va toujours rester présente, c'est ta gestion de risque. Parce que ce qui a le plus d'impact, très risqué au niveau d'une gestion d'opération d'une entreprise, c'est quand des événements peu probables soudainement se présentent. Puis tu t'es pas préparé contre des éventualités qui sont très difficiles à prédire. Donc, je pense qu'être sur la défensive, puis on le voit, je vois auprès de mes clients de plus en plus, les gens sont quand même sur la défensive, puis je pense que ça reste raisonnable. Mais l'autre côté du spectrum, c'est faut pas tomber non plus dans la narration actuelle puis baser une stratégie à long terme sur ce qu'on entend aujourd'hui parce que les choses vont évoluer. Comme je mentionnais tout à l'heure, qui aurait pu prédire les 3 dernières années qu'on a vécues? Je dis pas que les 3 prochaines années vont être aussi rock'n'roll, mais il va avoir son lot de bonnes puis de mauvaises nouvelles. Puis il faut dire où on veut être dans 5 ans. Puis ça reste qu'il faut quand même d'investir. Moi, je travaille pour une organisation de la Banque nationale. Puis en ce moment, la Banque nationale, elle investit massivement pour trouver du talent parce qu'on a un enjeu de main-d'œuvre qui va rester. On investit massivement dans notre stratégie numérique pour améliorer l'expérience client parce qu'on sait qu'on va être là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Puis l'investissement que tu ne fais pas aujourd'hui, tu vas payer le prix dans 10 ans pareil. Mais c'est trouver un peu cet équilibre-là dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes. On ne va pas se le cacher. Mais de l'autre côté, on ne peut pas être uniquement du côté défensif parce que dans le marché actuel, il y a des gens qui continuent d'être à l'offensive puis c'est eux qui vont gagner des parts de marché à long terme, puis on va être présent avec eux.
Donc, une bonne balance entre les deux en ce moment, ce serait ce que tu conseilles un petit peu à tes clients, autant au niveau de leur gestion de patrimoine que les investissements qu'ils veulent faire à la bourse.
Oui, puis si on ramène ça au niveau des deux côtés du bilan, du passif puis de l'actif, dans les dernières années, on avait moins un grand empressement dans la gestion du risque de payer notre passif parce que le coût de l'emprunt était relativement peu élevé. Par contre, dans ce nouvel environnement-là, quand les gens ont de la liquidité, ils disent « J'aurais-tu payé mes dettes ou investir dans le marché? » Puis ça reste que le marché il a baissé. Il y a une opportunité sur un horizon sur 3 à 5 ans. Faut quand même reconnaître que ton coût d'emprunt est relativement élevé actuellement. Donc, quelqu'un qui emprunte personnellement puis à prime plus le taux de base, il y a un coût d'emprunt de 6,7%. Ça te prend un bon rendement brut avant impôt pour égaler ça. Puis même si le taux baisse éventuellement, il ne reviendra pas au niveau qu'on a connu, toi et moi, il y a 2 ans ou il y a 18 mois.
Donc, tu penses, combien de temps que ça prendrait, selon
moi,
toi?
Ben, je vais faire mon François Trahan, mais à l'inverse, je fais une blague. Je fais pas de prédiction de marché, mais ce que je veux dire, c'est que on commence à voir quand même l'inflation de base, un ralentissement. Et environ, là, aux États-Unis, c'est à peu près à 4,7%, puis c'est à peu près idem ou la même chose au Canada. Puis le plus gros facteur là, qui fait qu'il y a de l'inflation dans le calcul, c'est le prix du logement, parce que les baux qu'il y a eu précédemment se sont faits avec des hausses parce que les propriétaires d'immobilier ont subi cette inflation-là, mais on voit un ralentissement. Donc, moi, personnellement, mon scénario de base, j'applique peut-être une probabilité de 65 à 70 %, c'est qu'on voit tranquillement cette inflation-là se calmer. Ce que ça veut dire, c'est que la recette des banques centrales font leur effet. Puis, il faut rappeler que les banques centrales, quand la Banque du Canada a haussé de 1 % là, sa première hausse jumbo là, de 1 %, c'est en juillet de l'année dernière, elle avait dit que ça va prendre 18 mois avant qu'on voit les ramifications. On n'est même pas rendu là, puis on commence à voir ces effets-là. Puis c'est vrai que dans l'équation, il y avait une portion de l'inflation qui était transitoire. Le coût de transport a baissé. Il n'y a plus d'enjeu de chaîne d'approvisionnement à certains degrés. Fait que les biens ont baissé. On commence à voir tranquillement la lumière au bout du tunnel. Pourquoi je parle de ça? C'est que si on se projette dans 12 mois ou vers la fin de l'année, bien, ça se peut qu'on retrouve des taux d'inflation beaucoup plus sains. Ce qui amènerait peut-être les banques centrales à lever le pied. Parce que moi, je pense que il y a quand même un impact significatif à la hausse qu'on a vue. Là, c'est majeur. Là. Je parlais à une grande institution. En général, leur taux de sensibilité pour les prêts aux entreprises, ils avaient planifié dans les scénarios les plus pessimistes une hausse de 2,5 %. Puis le taux directeur, c'était de 4,25 % la hausse. C'est vraiment significatif. Puis on va en avoir les effets. La banque CIBC a mentionné la semaine dernière, à partir de ses résultats, qu'un emprunteur d'hypothèque sur 5 a des enjeux de payer uniquement l'intérêt. Donc, ça commence à se faire sentir. Puis si c'est le cas, comment la bourse va réagir? Bien, il y a des bonnes probabilités qu'ironiquement, la bourse progresse parce que c'est des annonces que les médecines fonctionnent, les banques centrales, que l'économie contracte. Donc, qu'est-ce que les banques centrales vont faire? Ils vont songer à non seulement mettre sur pause la hausse de taux, comme la Banque centrale du Canada l'a mentionné, mais de les baisser.
La réduire. c'est tout le temps comme ça que ça fonctionne. Hein? Habituellement, tu as les hausses des taux d'intérêt, 12, 18 mois. Des fois, ça peut aller jusqu'à 24 mois avant qu'on voit des effets. Ouais. Et là, par la suite, on retourne un peu à un cycle qui va recommencer continuellement. Et est-ce qu'on pourrait peut-être extrapoler ça? Je sais qu'on ne veut pas faire de prédictions parce qu'on le sait que plein de choses qu'on ne peut pas prévoir risquent d'arriver. Mais est-ce que ça peut avoir un impact? Parce que là, on parle à des chefs d'entreprise aujourd'hui sur le podcast Hypercroissance sur la dynamique autour de la main-d'œuvre. Je te donne un exemple, Simon. Je parlais récemment avec un ami à moi qui a une entreprise technologique aux États-Unis. Je pense que j'en ai parlé avec Jonathan Léveillé sur le podcast récemment aussi. Où est-ce que je lui posais la question, comment tu es capable de naviguer à l'intérieur d'une organisation comme la tienne en ce moment qui est dans un environnement qui est complexe au niveau technologique et du même coup, tenter de trouver de la bonne main-d'œuvre parce qu'on sait, il y a les pénuries de main-d'œuvre. Il me regarde et en une seconde, il me dit, puis c'est en anglais, Antoine, c'est aucunement difficile au moment où on se parle de trouver des bons employés. Et lui, il est en Californie, dans le monde technologique, où est-ce qu'il y a eu énormément de renvois. J'amène ça à ton attention pour dire ce qui est en train de se dérouler avec une économie qui est changeante, un cycle qui est en train, on dirait, de basculer. Est-ce que ce même cycle-là pourrait peut-être basculer également au niveau des entreprises où il y a un taux de chômage qui va peut-être plus augmenter et le plein emploi ne sera pas autant au rendez-vous?
Bien, c'est un bon point. Moi, ce qui se passe au niveau des régions, il y a différentes dynamiques, autant au Canada qu'aux États-Unis. Et dans l'ensemble, je pense que la main-d'œuvre va rester un défi parce qu'au Québec, le taux de chômage est environ 4 %, puis être en plein emploi, c'est 5 %. Donc, même si le taux de chômage augmenterait de 25 %, on sera encore dans un environnement de plein emploi. Donc, pour un employeur au Québec qui veut mettre la main sur du talent, je pense que ça va rester quand même un défi de ce côté-là, définitivement.
Donc, en gros, ce qui est en train de se dérouler dans l'environnement technologique aux États-Unis, ce serait pas nécessairement quelque chose qu'on risque de voir dans les prochains mois, dans les prochaines années au Québec, autant dans le service qu'en technologie ou tout ça?
Actuellement, c'est pas ce qu'on voit. Puis un point que tu mentionnes aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a des mises à pied, mais il y a quand même un écart dans les marchés boursiers entre une annonce des mises à pied puis l'exécution de la mise à pied.
Bon, parlons-en de ça maintenant. Puis je pense que ça nous aide à faire une belle transition ici. On a ouvert le point, donc parlons-en. C'est un troisième point que je voulais discuter avec toi aujourd'hui, Simon. Ces fameuses mises à pied-là des entreprises technologiques, plusieurs manières de l'aborder. On l'a vu, Meta a envoyé 11 % de leurs effectifs ou 13 % de leurs effectifs pour un total de 11 000 personnes. Google a renvoyé environ 10 000 personnes. Amazon, ça continue. Et là, on parle des très gros joueurs, mais il y a également des plus petits joueurs. Ça reste des grosses entreprises comme Salesforce qui l'ont fait. Et bref, il y a énormément de gens dans le domaine technologique qui ont perdu leur emploi aux États-Unis. Première question que j'amène à ton attention, est-ce que les gens n'utilisent pas ça un peu comme excuse en ce moment? De se dire, un le fait, puis le premier qui a commencé, c'était Monsieur Musk. Après, on se dit qu'on a le droit de le faire parce qu'un le fait. Et là, par la suite, je le fais. Est-ce qu'on n'est pas juste en train d'essayer de dégonfler des effectifs qui avaient gonflé artificiellement à cause de la COVID? Est-ce que c'est ça qui est en train de se dérouler, selon toi?
Ben moi, je te dirais qu'en premier lieu, c'est les investisseurs qui commencent à parler puis veulent une sobriété. L'argent était facile en technologie, puis c'était la croissance à n'importe quel prix, puis les investisseurs ne faisaient pas nécessairement une diligence pour s'assurer que l'argent était bien déployé. Donc, il y a eu beaucoup d'embauches, beaucoup de dépenses. Aujourd'hui, surtout en technologie, les investisseurs, ils disent, c'était pas rentable aujourd'hui. C'est quand tu vas être rentable, puis de quelle manière tu vas le faire. Puis les investisseurs s'attendent à des gestes tangibles qui vont amener une rentabilité. Fait que ça, c'est le message qui est bien entendu. Là-dedans, ça inclut des coupures de postes. Cependant, c'est vrai que les grandes sociétés technologiques, en principal, c'est d'autres qui ont été les plus médiatisées, ont fait de grandes coupures à coût de 10 000 emplois, comme tu as mentionné. Mais si on compare le nombre d'employés qu'il y avait chez Microsoft en 2019 par rapport à aujourd'hui, même s'ils appliquent 100 % de ces coupures-là qu'ils ont annoncées, il y a quand même 25 % plus d'employés chez Microsoft. Même chose chez Google, 35 % plus d'employés chez Facebook et le double d'employés chez Amazon, malgré les coupures annoncées. Ce que ça veut dire, c'est qu'entre 2019 puis aujourd'hui, malgré les coupures, il y a un besoin pour combler des postes au sein de ces organisations-là. Donc, la perception qu'il y a un marasme significatif est peut-être un peu exagéré dans ce qu'on peut voir au niveau des médias. L'autre point, ce qu'on commence à regarder, c'est qu'entre l'annonce de la coupure puis des coupures littérales, là, en ce moment, il y a un délai qui commence à être curieux. Puis on voit que certaines coupures n'ont pas encore lieu. Certaines coupures sont faites sous forme de réduction d'affichage de postes ouverts puis de répartir les employés dans d'autres secteurs d'activité. Ce qui démontre un bon signe, par contre, c'est que ça veut dire que les entreprises ont vraiment des besoins, ce qui veut dire qu'il y a quand même une certaine vitalité économique qui est présente. Donc, je pense que ces annonces-là de coupure, ça va donner une certaine effet positif sur le prix d'une action à court terme. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu encore à 100 % une implantation de ces promesses-là de coupure dans le marché. Là.
Donc, c'est quasiment un coup de marketing, des fois, là, ce qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire,
On ne peut pas juger des intentions des équipes de direction, mais je pense qu'entre le projet d'éliminer on voit clairement que dans les faits, entre l'annonce de coupure puis l'exécution de la coupure, c'est vraiment différent. Je vais faire un pendant. Durant la crise financière en 2008, lorsque les banques faisaient des coupures massives, on pouvait voir aux nouvelles les gens quittaient avec des boîtes. Puis c'était vraiment des coupures significatives. Puis en temps réel, qui se passait. C'est pas la même chose actuellement du point de vue des sociétés technologiques. Là.
C'est bon à savoir. C'est assez intéressant tout ça parce que clairement, c'est une narrative qui est utilisée en ce moment et qui a un impact directement sur les valorisations boursière. Je regardais très récemment les annonces qui ont été faites au niveau de Meta, une organisation que je suis beaucoup, vous aurez compris pourquoi, qui parle d'année de l'efficacité cette année. On va continuer à couper des postes. On veut enlever des managers qui managent des managers, qui managent encore des managers. Et au final, le lendemain, l'action prend des dizaines et des dizaines de milliards de valorisation boursière à la bourse. On dirait qu'instantanément, le message a été reçu comme quoi, OK, ils vont être plus efficaces, on donne une plus grande valeur à l'entreprise. C'était totalement l'inverse avant. Avoir plus d'employés dans son organisation était quasiment une métrique de croissance. Là.
Ouais, exactement. Donc, les investisseurs, ce qu'ils veulent savoir, c'est que les entreprises feront mieux avec moins. ceux qui sont pas rentables, qui se dirigent vers une rentabilité. Parce que clairement, une société qui fait une ronde de financement dans l'environnement qu'on est actuellement a beaucoup moins de conditions avantageuses par rapport à il y a 12 ou 24 mois définitivement. Là. Donc ça va rassurer la communauté d'investisseurs.
Puis, on a eu beaucoup de gens sur le podcast, Simon, qui sont venus nous parler des rondes de financement qu'ils faisaient pour bâtir une organisation à EBITDA négatif, avoir des entreprises qui vont peut-être faire une croissance à un certain point, une profitabilité à un certain point. Est-ce que ça, tu penses que ça va revenir sexy à travers le temps ou on est très, très loin de ça?
Des cycles où il y a de l'appétit, où le crédit est disponible puis de l'appétit, il y en aura toujours. Par contre, je pense qu'actuellement, je pense qu'on retrouvera pas l'appétit qu'on avait eu à court terme dans les dernières années. Par contre, ces modèles d'affaires-là qui sont temporairement non rentables avec une stratégie d'affaires qui est bien raisonnée puis qu'il y a une justification, va rester. Mais par contre, les conditions de financement très avantageuses que ces fondateurs-là bénéficiaient, ben je pense que ça va être un peu plus différent. Par contre, il y a beaucoup de liquidités dans le système encore. Il y a beaucoup de sociétés de capitaux privés ou de capitaux de risque qui sont là, qui ont de la liquidité, qui ont des mandats d'investir. Donc, il reste qu'il y a quand même un appétit. C'est pour ça que je dis que c'est pas un retour non plus à une orthodoxie financière comme on avait déjà connu il y a plusieurs années. Mais ça va être un peu plus raisonné, plus stratégique, pour le bien des actionnaires, pour assurer même que ces gestionnaires-là ou ces fondateurs-là de sociétés-là fassent plus avec mieux pour retrouver et gagner une productivité accrue. Là.
Intéressant. Simon, ça a été excessivement instructif, l'information que tu nous as partagée aujourd'hui. Si on veut en apprendre un petit peu plus, peut-être si tu voulais nous dire quelle est l'étendue de tes services, pour qui habituellement vas-tu faire ce travail de conseil, juste pour bien être capable de bien aider nos auditeurs aujourd'hui?
Oui, bien, nous, on a des clients à travers la province. En fait, là, notre groupe, le groupe Page & Plante, on œuvre au sein de la Financière Banque Nationale. Puis on a des clients, on gère environ 1,3 milliard de dollars pour des centaines de familles. Donc, ce qu'on fait, c'est que notre but premier, c'est de démocratiser la finance. Donc, le savoir-faire qu'on a avec des familles bien nanties aujourd'hui, avec la technologie, on peut la décliner avec des entrepreneurs que le gros de leurs actifs est au sein de l'entreprise. Par contre, au fur et à mesure que le patrimoine va s'accroître, on connaît le chemin qu'ils prennent, puis on va les amener avec des outils, des stratégies qui vont nous permettre de les accompagner pour, au fur et à mesure que la complexité de leurs affaires financières vont s'élargir. L'autre point aussi, c'est qu'on a une chaîne sur YouTube, groupe Page & Plante, puis je pense que tes auditeurs vont aimer ça parce qu'on éduque les investisseurs à penser en gens d'affaires. Quand on investit en bourse, puis c'est pour ça moi, je suis un optimiste, on investit dans des entreprises, puis en ce moment, il y a plein de secteurs d'activité prometteurs, productivité agricole, sécurité, cybersécurité, décarbonisation de l'économie. Puis dans la baisse du marché, en tant qu'entrepreneur, parce qu'un investisseur qui met son capital dans le marché, c'est un geste d'entrepreneur, il y a des belles occasions, puis on partage notre savoir-faire en ligne pour les gens qui veulent développer leur connaissance en investissement.
Fantastique, on mettra un lien dans les notes de l'épisode. Simon Plante, merci beaucoup. On va essayer de te réavoir quelques fois au courant de l'année pour donner des conseils économiques à nos auditeurs. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.